une soirée dans le cadre de notre séminaire. Nous voulons, Seigneur, te bénir pour avoir été avec nous tout au long de ce moment. Seigneur, qui t'ont été consacré une fois de plus. Ce moment où Dieu mis à part et qui nous ont permis, ô Seigneur, de nous tenir avec humilité devant toi pour t'exprimer nos sentiments. Seigneur, pour te dire combien tu es notre appui, combien tu es celui qui prend soin de nous, qui conduit nos pas jour après jour. Merci notre Père et notre Dieu de nous rassembler, Seigneur, venant des différents horizons, mais tous avec un même désir, tous animés d'une même pensée, qui est celle, Seigneur, d'entrer dans une relation beaucoup plus profonde, plus intense, plus passionnée avec toi. Toi qui nous as tant aimés et qui as tout fait, Seigneur, pour que nous puissions un jour être délivrés du pouvoir du péché, du pouvoir de la mort. Seigneur, pour être délivrés de la colère sous laquelle nous étions, à cause d'une vie abominable, à cause d'une vie et d'une conduite, Seigneur, irresponsable à tes yeux, à cause d'une vie d'inimitié contre toi, tu nous as tirés de là où nous étions et tu nous as introduits dans ton royaume où nous sommes désormais des sacrificateurs, des hommes et des femmes appelés, Seigneur, à te rendre un culte par le Saint-Esprit, un culte digne de toi, un culte que tu en craignes et qui soit une véritable offrande, une offrande, Seigneur, de bonne odeur pour toi et pour toi seul. Merci de bénir, Seigneur, ce moment, le deuxième rendez-vous que nous avons dans le cadre de notre séminaire. Merci d'avoir pourvu au transport. Merci de nous assister malgré notre faiblesse. Seigneur, merci, tu es là. Et comme ta parole déclare, que le faible dise « je suis fort », que le pauvre dise « je suis riche », que l'abandonné crie et dise « je suis aimé ». Que le captif crie, je suis libéré. Amen. Seigneur, merci. Merci de répandre ta parole maintenant dans nos cœurs. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Veuillez vous rasseoir. Merci. Nous aimerions vous signaler qu'il y a encore de la place ici derrière moi. Il y a toujours moyen de bouger un tout petit peu les micros et chacun pourra trouver une place. Avant donc de démarrer ou de commencer l'enseignement dans cette deuxième soirée de notre séminaire, je voudrais en tout cas vous accueillir ici au Centre évangélique francophone La Borne et vous dire combien nous sommes très ravis que vous soyez tous là autour d'une même personne que nous aimons tous avec passion, avec amour, vous dire combien nous sommes heureux de vous accueillir et c'est pourquoi je voudrais que nous puissions en tout cas, vous accueillir en vous acclamant. Que le Seigneur vous bénisse. Une fois de plus, comme hier, il a quelque chose à nous communiquer. Nous sommes donc là pour apprendre, recevoir quelque chose en rapport avec l'importance et la nécessité de restaurer, de réparer, de rétablir, de redresser l'autel du Seigneur. Et comme nous l'avons vu, l'autel est quelque chose de fondamental, quelque chose d'une importance capitale, essentielle dans la relation de Dieu avec l'homme et de l'homme avec Dieu. L'autel est présent dans le livre de la Genèse et tout au long du culte mosaïque, c'est-à-dire le culte tel que Moïse l'a instauré sur demande du Seigneur, et même avant que Moïse vienne et promulgue la parole de Dieu, qu'il donne l'instruction, la Torah au peuple d'Israël, avant cela, les patriarches qui avaient appris à connaître le Seigneur, à marcher avec lui, tous avaient compris la nécessité, dans leur marche, dans leur parcours avec le Seigneur, de lui dresser un autel qui va jouer un rôle tout à fait prépondérant dans leur relation avec le Seigneur. Voilà pourquoi il est important que nous comprenions qu'est-ce que la Bible attend, qu'est-ce que la Bible a à nous dire à propos du concept ou du moins de la réalité d'un autel dans l'ancienne alliance, mais aussi et surtout dans la nouvelle alliance. Alléluia. Gloire au Seigneur. Mais avant d'aller plus loin, je voudrais donc que chacun de nous puisse avoir au moins une idée de l'autel. Une idée de la manière dont l'autel se présentait. J'ai donc préparé, je demandais à notre service de nous préparer trois images qui vont vous permettre un peu de mettre un visage sur l'autel. Alléluia. Car pour beaucoup d'entre nous, ça reste encore quelque chose de virtuel, quelque chose de théorique, parce que nous vivons dans une autre époque, dans un autre siècle, et nous ne sommes pas habitués à cette notion d'autel. N'est-ce pas? C'est pourquoi nous allons voir, on va projeter la première image. Voilà, là, un petit dessin d'un autel. Vous voyez, un autel de pierre avec quelques bois. Et ensuite, au-dessus du bois, vous avez quoi? Vous avez le sacrifice. En l'occurrence, le sacrifice d'un animal. Puisque ce qui nous intéresse, c'est l'offrande sanglante ou le sacrifice sanglant, c'est-à-dire un animal qui est donc tué et dont le sang coule. Puisqu'il y avait dans l'ancienne alliance toutes sortes d'offrandes. Il y avait des offrandes de fruits, les prémices par exemple de récoltes, etc. Tout cela c'était des offrandes. Donc il y avait différents types d'offrandes, mais le plus important pour nous c'est l'offrande sanglante, c'est-à-dire la victime animale qui va être tuée, qui va être placée sur l'autel, et donc qui va permettre à l'homme pécheur, l'homme coupable de pouvoir approcher le Dieu saint, le Dieu parfait, et pour qui chaque péché doit être jugé. Et l'animal qui mourait, eh bien, mourait à la place du pécheur. C'est ainsi que le pécheur qui apportait l'animal, pour donc son offrande, devait poser sa main sur l'animal tué. Voyez-vous? Montrant par là que la culpabilité qui aurait dû tomber sur le pécheur, eh bien, est tombé sur l'animal. En d'autres mots, l'animal était donc la victime innocente. En d'autres mots, l'animal était donc un élément de substitution. Au lieu que ce soit l'homme qui endure le châtiment terrible du péché, car la conséquence majeure du péché, c'est la mort, qu'elle soit physique ou spirituelle. Voyez-vous? C'est pourquoi l'animal devait mourir. Donc voilà un premier exemple d'un autel. Comme ça, ça vous donne un peu une idée, voyez-vous, de l'autel à l'époque. Et c'est ce genre d'autel que nous allons retrouver déjà à l'époque de Noé. Car c'est avec Noé que pour la toute première fois, le mot autel apparaît, et aussi la pratique du sacrifice sur l'autel apparaît. Ça sera d'ailleurs notre premier texte, et nous allons voir comment, à cause de l'autel dressé, de l'autel établi, à cause du sacrifice sanglant, eh bien, Dieu va porter un regard favorable sur ce sacrifice, et il va sentir une bonne odeur, il va donc répandre sa grâce sur Noé, et même sa grâce sur l'humanité tout entière. Car ce qu'il avait prononcé comme serment de ne plus détruire la terre par les eaux, eh bien, est encore valable aujourd'hui. La terre d'aujourd'hui, à cause du péché, ne sera plus détruite par l'eau, mais plutôt par le feu. Et voilà. Voilà, donc Dieu a tenu sa parole, il continue à la tenir jusqu'à aujourd'hui. La deuxième image, là, c'est le prêtre. Voilà, avec leur habillement, comme la parole de Dieu le dit. Là, nous sommes déjà à l'époque où la loi de Moïse a déjà été promulguée. Les sacrificateurs savent désormais comment s'habiller et comment faire, etc. Donc vous avez là l'autel, c'était l'autel du sacrifice, l'autel de l'Holocauste, et les deux branches, pourquoi? Eh bien, parce que ça devait être transporté. Je vous rappelle que le peuple est encore en route vers la terre promise, voyez-vous? Donc il devait à chaque fois camper quelque part, et quand il campait, au milieu de 12 tribus, il y avait donc ce qu'on appelait le tabernacle, ou la tente d'assignation. C'était une tente qu'on dressait et puis qu'on démontait lorsque le moment arrivait de partir. Et quand ils sont arrivés en terre promise, eh bien, il fut un moment où l'arche était à Silo, etc., jusqu'au jour où enfin Salomon va donc construire le temple de Dieu à Jérusalem. Voyez-vous? Amen. Donc voilà, là, on peut remettre un tout petit peu. Voilà, donc vous voyez, le sacrificateur, le sacrifice ou l'offrande sur l'autel avec le feu. Et le sacrifice, dans le cas de l'Holocauste, car c'est ce qui nous intéresse, eh bien, le sacrifice ou l'offrande était entièrement, c'est d'ailleurs l'étymologie du mot même grec, Holocauste, c'est-à-dire brûlé entièrement. Pourquoi? Parce que c'était une offrande destinée à Dieu et à Dieu seul. Alors que d'autres types d'offrandes, toujours animales, eh bien, une partie seulement était brûlée, par exemple le rognon, la graisse, etc. Et le reste, soit c'était brûlé en dehors du camp, on prenait le reste de l'animal, on allait hors du camp pour brûler cela, ou alors une partie était donnée au sacrificateur et une partie brûlée. Mais lorsqu'il s'agissait de l'Holocauste, c'était l'entièreté qui revenait au Seigneur. Amen. Donc quand vous entendez, quand vous lisez une offrande qui est donc présentée comme autant l'Holocauste, c'est-à-dire c'était une offrande destinée à Dieu seul. Il ne pouvait pas partager cela avec qui que ce soit. Mais il y avait d'autres offrandes où une partie revenait au sacrificateur. Puisque eux, ils étaient donc affectés au service du temple, au service du tabernacle, et ne pouvaient pas faire un quelconque travail que s'adonner aux différentes responsabilités qui étaient les leurs. C'est pourquoi ils se nourrissaient de cette manière. Gloire au Seigneur. Et enfin, donc ça, c'est encore à l'époque où on était en route. Toujours en route, cette fois-ci, vous voyez, c'est ça, la tente d'assignation ou le tabernacle. Voilà comment ça se présentait. Donc, quand vous lisez dans l'Ancien Testament, et Moïse, eh bien, ils levèrent le camp avec le tabernacle, c'est ça. Vous voyez, donc, c'était de peau, on les dressait, et puis, au milieu là, c'est quoi? Quand on entrait dans cet espace qu'on va appeler plus tard le parvis, la première chose qui accueillait l'Israélite, c'était l'autel du sacrifice. Il fallait que le sang coule avant de continuer d'arriver à la cuve d'airain où il y avait de l'eau pour se purifier, se laver, et c'est seulement après qu'on entrait dans ce qu'on, voilà, dans le tabernacle proprement dit, c'est ce que vous voyez là, avec deux parties. La première partie qu'on appelait le lieu saint, j'aurais pu prendre les images de l'intérieur, voyez, et puis ensuite la deuxième partie, le lieu très, ou le débire, donc le saint des saints. Donc ce que vous voyez au milieu là, c'était ça le tabernacle. Tout autour, c'était donc, si vous voulez, la clôture. Et voilà, personne ne pouvait entrer là-bas. C'est donc là où les sacrificateurs recevaient les pécheurs, recevaient les différentes offrandes et les présentaient au Seigneur. Vous voyez, mes amis, personne ne pouvait prétendre aller au-delà sans passer par l'autel du sacrifice. Et vous comprenez pourquoi Jésus est mort à la croix. Amen. Alléluia. Tout cela était la préfiguration de ce que Jésus allait accomplir beaucoup plus tard. Voyez-vous, tous ces animaux qui mouraient là, dont le sang eh bien, était versé constamment, n'était que l'image du véritable sacrifice qui allait venir beaucoup plus tard, non pas avec encore un animal, mais cette fois-ci avec le Fils de Dieu fait homme. Donc pour mourir, il fallait qu'il prenne le corps d'un homme. Mais tout en étant homme, il était aussi. Donc voilà comment ça se présentait. Maintenant vous avez une idée, c'est ça le tabernacle. C'était toutes des peaux hein, qui couvraient. Et puis les sacrificateurs entraient. D'ailleurs, si vous voyez très bien, il y a un sacrificateur qui est en train d'entrer là. Hein? Voyez, il entrait et dans la première partie, il y avait l'autel du parfum, il y avait donc le chandelier, la menorah avec les sept branches et puis après, vous aviez le voile. Au-delà, aucun sacrificateur ne pouvait y entrer sauf le souverain sacrificateur, c'est-à-dire le chef des. Il y entrait une fois l'an. Une fois l'an, à l'occasion de ce jour qui est appelé en hébreu le Yom Kippour. Yom étant jour en hébreu, Kippour étant pardon, c'est-à-dire le jour du pardon. Il entrait là-bas pour implorer le pardon du peuple. Il entrait là-bas après avoir lui-même offert un animal là-bas, avant d'aller plus loin et de se présenter devant Dieu en faveur du peuple. C'est ça le rôle du sacrificateur. Voyez-vous, j'ai déjà eu l'occasion de le dire. Le sacrificateur se présente devant Dieu en faveur des humains et le prophète se présente devant les hommes en faveur de Dieu. Voyez ? Le prophète vient de la part de Dieu, il se tient devant les hommes pour Dieu. Voyez ? Tandis que le sacrificateur, lui, se tient devant Dieu pour... Mais le Christ a assumé le deux. Alléluia. Gloire à Dieu. Voyez-vous ? Il a été le Verbe. Puisque le prophète, son rôle, c'est de proclamer la parole. Ce n'est pas de raconter des salades, des âneries, non. Se dire, c'est de proclamer ce qu'il a reçu de la part du Seigneur. Et c'est ce que Jésus a été. Il a été le Verbe de Dieu. Il a été la parole de Dieu incarnée. Alléluia. Gloire à Dieu. Et en même temps, de par ce qu'il a accompli, comme agneau de Dieu, il est notre souverain sacrificateur. Il se tient devant Dieu, il intercède pour nous. Alléluia. Il est assis à la droite du Père. Il est notre avocat, il est notre intercesseur. Ça veut dire quoi? Qu'à l'instant où nous sommes rassemblés en son nom, eh bien, il est en train d'intercéder pour toi, mon frère, pour toi, ma sœur. Alléluia. Pour que le Père t'accompagne, que toutes les promesses que Dieu a faites, à proclamer avant même que tu viennes sur cette terre, que tout cela se concrétise. Alléluia. Donc voilà, vous avez maintenant une idée de l'autel. Hein? Ça va? On peut décoller? Ah, mais voilà. Voilà, on a planté le décor. Voilà le décorum, donc l'autel. Et c'est l'autel qui nous intéresse. Et nous avons vu là, hier, la nécessité, mes amis, de dresser l'autel. Car il n'y a pas de plus grande bénédiction que Dieu lui-même, oui ou non? Le plus grand bien que nous puissions avoir et qui demeure éternellement, le plus grand trésor, ce n'est pas ce que nous accumulons sur cette terre, ce que nous recevons de la part des hommes, mais plutôt Dieu lui-même. Alléluia. Et l'autel, comme nous l'avons vu hier, joue une place, ou plutôt un rôle important, dans la relation de l'homme avec son Créateur. L'autel est donc un lieu de rencontre. Alléluia. L'autel est le lieu où l'homme communie avec son Créateur. L'autel est le lieu où Dieu se manifeste. C'est ainsi qu'à un moment bien déterminé de l'histoire d'Israël, à un moment critique de l'histoire du peuple de Dieu, dont je disais, l'autel occupe une place importante, une place singulière, une place essentielle dans la relation de Dieu avec l'homme. Et l'image que nous venons de voir du tabernacle est vraiment l'image qui nous montre, qui met en évidence, en exergue cette nécessité de pouvoir avoir passé par l'autel avant d'entrer dans la communion avec le Seigneur. Et pour nous montrer cette importance et cette nécessité de dresser ou de restaurer, de rétablir l'autel, nous nous sommes inspirés de la vie du prophète Élie. Élie est apparu à un moment bien précis de l'histoire d'Israël. C'était un moment où le peuple de Dieu passait par des moments très difficiles. C'était donc une période où le peuple était complètement, mes amis, envahi par toutes sortes de ténèbres spirituelles et morales. Une période où l'enfer exerçait une influence terrible sur le peuple de Dieu. Au point où le peuple, eh bien, cherchait à suivre Adonai et en même temps suivre les Baals, toutes ces divinités païennes, cananéennes, philistines, etc. Et c'est là, sur les hauteurs du Carmel, que cet homme va rétablir l'autel. Il va donc mettre sur l'autel un animal, un taureau. Il va implorer Dieu, il va se tenir devant Dieu, sans être impressionné par la présence forte des prophètes de Baal, ils étaient à peu près 400-450, sans être impressionnés par ce peuple qui claudiquait, qui clochait un pied dedans, un pied dehors, l'homme de Dieu va défier l'enfer. L'homme de Dieu va défier les puissances des ténèbres. Résultat, le feu est descendu, alléluia. Le même peuple, mes amis, qui ne savait plus où aller, le même peuple qui était dans la confusion, à partir de cette intervention de la puissance de Dieu, eh bien, le même peuple a fini par confesser qu'en dehors du Dieu d'Israël, il n'y en avait pas. Et nous avons dit qu'aujourd'hui encore, notre monde de plus en plus incroyant, de plus en plus hostile à Dieu, de plus en plus idolâtre, notre monde qui se trouve du plaisir à se tourner vers la fausse religion, ce monde-là, mes amis, a besoin de voir encore aujourd'hui que Jésus est vraiment vivant. Alléluia. Il n'a pas besoin de connaître ce que Jésus a fait dans le passé. C'est très bien, comme je l'ai dit, je l'ai souligné hier. Le passé peut nous servir d'instruction et d'inspiration. Voir comment les anciens ont marché avec Dieu peut nous inspirer aujourd'hui. Mais le passé ne devrait pas être une occasion pour nous de nous y appuyer. Car ce dont les gens ont besoin, ce n'est pas seulement d'apprendre ce que Dieu a fait hier, avant-hier, il y a 2, 3, 4 siècles, il y a 2000 ans, les gens ont besoin de voir ce que Dieu est capable de le faire aujourd'hui. Et vous, mes frères et sœurs, et toi, mon frère et ma sœur qui est là, tu es appelé à être un outil entre les mains du Seigneur pour la démonstration actuelle de la puissance de Dieu dans ce monde incrédule. Donc notre prière, c'est que l'Église comprenne qu'elle a tout intérêt à rechercher la communion, mais alors une communion intime avec le Dieu, de rechercher une vie d'entière consécration à Dieu pour que ce Dieu-là embrase l'Église de Jésus-Christ. C'est seulement de cette manière que le monde pourra voir des merveilles accomplies par Dieu au milieu de son peuple et au travers de son peuple. Ceux qui ont vécu à l'époque du Nouveau Testament, à l'époque de l'incarnation du Christ, ont vu le Seigneur à l'œuvre. Alléluia. La génération qui est venue après, c'est-à-dire la période du livre des Actes des Apôtres, eh bien, eux aussi ont proclamé que Jésus était vivant. Ils ne se sont pas appuyés sur ce que Jésus avait fait dans les évangiles pour dire, vous savez, à l'époque, nous nous souvenons, quand nous étions à Capernaum, quand nous étions là-bas, Jésus avait fait ceci, avait fait cela. Oui, ils ont rappelé, mais plus que cela, ils ont démontré. Alléluia. Ils ont démontré que Jésus était le même hier, aujourd'hui et le monde aujourd'hui. Notre ville de Kinshasa, nos contemporains, mes amis, ont besoin de voir que ce Jésus est véritablement ressuscité des morts. Ce ne sont pas de simples discours qui les amèneraient, mes amis, à croire et à confesser que Jésus est Seigneur. C'est la démonstration de sa puissance dans ta vie. La démonstration de sa puissance dans l'Église, au travers de l'Église, qui va amener les uns et les autres à dire, assurément, Jésus est le Fils de Dieu. Mais pour que, mes amis, cette puissance soit manifestée, que nous puissions la vivre comme à l'époque des évangiles, comme à l'époque du livre des Actes, comme à l'époque où l'apôtre Paul parcourait pratiquement tout le bassin méditerranéen, annonçait et proclamait cette parole, pour que cette puissance se manifeste au milieu de nous, il est donc important que nous restaurions l'autel de Dieu. Car c'est lorsque l'autel est restauré, c'est lorsque le sacrifice est sur l'autel, c'est lorsque il y a le sacrificateur, qu'alors Dieu fait sa part, il envoie le feu. L'Église est née, et je me permets de vous le rappeler, et je vous le rappellerai tout le temps, l'Église est née, mes amis, dans la prière, dans la chambre haute, l'Église est née dans le feu de la Pentecôte, l'Église est appelée à demeurer dans le même feu pour pouvoir conquérir de nouveaux territoires à Jésus. Sans le feu, l'Église serait comme n'importe quel groupement religieux. Sans le feu, nous serions comme n'importe quelle dénomination. Nous serions comme n'importe quel croyant. C'est le feu et le feu de Dieu qui fait toute la différence, comme à l'époque d'Élie, quand il en priait, après que les prophètes de Baal aient tout fait et qu'il n'y ait rien eu, lui, quand il s'est tenu, lui, quand il a proclamé la parole, il a adressé la prière au Seigneur, eh bien, quelque chose s'est passé. Et aujourd'hui encore, Dieu veut faire quelque chose, mes amis. Il faut que quelque chose se passe entre l'Église et Dieu avant que quelque chose se passe entre l'Église et le monde. Si nous voulons que Kinshasa soit visité puissamment par le Seigneur, il faut que quelque chose se passe entre le Seigneur et toutes les églises qui se réclament de lui. Il faut que quelque chose se passe entre le disciple de Jésus et le Seigneur lui-même. Et c'est ce qui s'est passé dans la chambre haute. Quelque chose s'est passé entre les 120 réunis dans ce lieu-là avec Dieu avant que quelque chose ne se passe entre le même 120 et les Juifs qui étaient rassemblés ce jour-là à Jérusalem à l'occasion de la fête de Pentecôte. Donc, voilà l'importance, l'urgence de pouvoir restaurer l'autel. Maintenant, nous retournons rapidement dans l'ancienne alliance pour voir que, effectivement, dès le départ, l'autel est bien présent dans la relation de Dieu avec l'homme depuis sa chute. Alors, nous l'avons vu. C'est donc une notion importante et le premier texte de la parole de Dieu qui mentionne l'autel, c'est donc Genèse chapitre 8 avec Noé, après le déluge, après le jugement, Dieu a tout détruit parce que ça devenait insupportable. Le mal fleurissait comme le lys de champ. Le mal, eh bien, croissait un peu partout. Les gens étaient de plus en plus rebelles, les gens étaient allergiques à la notion même de Dieu. Chacun menait sa vie de manière tout à fait égoïste, sans se préoccuper du Créateur. La société humaine à l'époque, eh bien, tombait ou sombrait de plus en plus dans la déliquescence spirituelle et morale. Et à cause de tout cela, eh bien, le jugement de Dieu est tombé. Mes amis, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour semer, mais il y a aussi un temps pour récolter. C'est là que nous devons faire attention quant à la nature de la semence que nous semons dans notre vie. Nous finirons toujours par récolter de fruits selon l'espèce de la semence jetée dans la vie. Au verset 8 de Genèse, plutôt au chapitre 8 de Genèse, verset 20 à 21, la Bible nous dit « Noé bâtit un autel à l'Éternel ». Il y prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs, et il offrit des holocaustes sur l'autel. L'Éternel, regardez le résultat merveilleux, la conséquence extraordinaire. L'Éternel sentit une odeur agréable. Et l'Éternel dit en son cœur, « Je ne maudirai plus le sol à cause de l'homme, parce que le cœur de l'homme est disposé au mal dès sa jeunesse, et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait, tant que la terre subsistera, etc. » Donc Noé a présenté des holocaustes. C'était donc des bêtes vivantes qu'il a tuées. Il n'a pas été chercher des carcasses d'animaux qui traînaient quelque part après que les eaux se soient baissées, vous vous rappelez, après le déluge. Hein? Il aurait pu aller chercher tous ces animaux, leurs carcasses, non. Il a pris des animaux vivants, il les a offerts en holocauste à Dieu, il a dressé l'autel, il a mis ces animaux sur l'autel, eh bien, il a prié, et la Bible nous dit, nous l'avons lu, le Seigneur sentit une odeur à... Oh, gloire à Dieu! Et il prononça une parole d'apaisement vis-à-vis de la terre, vis-à-vis de l'humanité. Il prononça une parole de bénédiction. Nous voyons là, mes amis, après la destruction, après le jugement, eh bien, Noé qui construit l'autel. Et à partir de là, tout au long de l'Ancien Testament, nous allons trouver, eh bien, des hommes craignant Dieu qui dressent des autels pour pouvoir communier avec le Seigneur. Dans Genèse 12, verset 7, Il est donc question d'Abraham. Il nous est dit qu'Abraham, l'Éternel apparut à Abraham et dit, je donnerai ce pays à ta descendance. Et le résultat, Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Gloire au Seigneur. Alléluia. Et il invoqua, il bâtit l'autel, il invoqua le nom d'Adonai. Il invoqua le nom du Dieu qui lui était apparu. Donc cet autel était pour lui un moyen de mémoire, un mémorial. Voyez-vous, quelque chose qui lui rappelait l'apparition de ce Dieu-là, les promesses qu'il lui avait faites. Parce que c'est dans ce contexte-là qu'il va lui dire, je donnerai ce pays à ta descendance. Dieu lui fait une promesse. Et lui dresse un autel. Donc nous voyons qu'ici l'autel joue le rôle de mémorial, de quelque chose qui permet à Abraham de se souvenir de la parole que le Seigneur lui avait donnée, de lui accorder un jour la terre sur laquelle il était à ses descendants. Quand le Seigneur lui fait cette promesse, cette terre appartient encore aux Cananéens. N'est-ce pas? Mais Dieu prononce cette parole. Gloire à Dieu. Il invoqua le nom du Seigneur. Et invoquer le nom du Seigneur, là je voudrais ouvrir une petite parenthèse, dans le contexte de l'Ancien Testament, eh bien, invoquer le nom du Seigneur impliquait une quelconque expérience, une quelconque interaction avec Dieu. Ce n'était pas simplement une confession verbale du vocable Dieu. Pour nous, quand on dit j'invoque Dieu, souvent on dit Dieu. On pense que le fait de citer le nom de Dieu, ça suffit. Quand on parle d'invoquer, cela suppose qu'il y a au préalable une expérience. Alléluia. Et après, on invoque. Car le nom de Dieu n'est pas un nom magique. Oui ou non? C'est pas un nom magique, hein? Et je reviendrai peut-être à une autre occasion, parce qu'il y en a qui s'accrochent au terme. On pense que si on a dans sa maison le quatre lettres, qu'on appelle le tétragramme du nom de Dieu, que certaines traditions, hélas, ont mal traduit. On pense qu'en ayant ça YHWH, où Yahweh est dans sa maison, eh bien, on est béni. Il ne faut pas féticher là-dessus. Hein? Pas du tout. On peut avoir ça, il est tout à fait... avoir même ça autour de son cou. Et se retrouver un jour en enfer. Il faudra que nous examinions de plus près la notion même de nom. Donc, tout au long de sa longue marche avec Dieu, Abraham a eu à construire des autels, alléluia, en souvenir de ce Dieu qui lui apparaissait, ce Dieu qui lui donnait des promesses, ce Dieu qui lui faisait du bien, ce Dieu qui veillait sur lui, ce Dieu qui combattait pour lui. Oh, gloire à Dieu! C'est ainsi qu'au chapitre 22, toujours du livre de la Genèse, chapitre très important aussi, puisque hier nous avons escaladé le mont Carmel, et nous avons été à la rencontre d'Élie, avec son autel, en face de tous ces prophètes de Baal, ces faux prophètes, ces idolâtres, etc. Aujourd'hui, nous irons escalader le mont Moria ou Morija. Là, c'est Abraham, lui aussi, sur instruction du Seigneur, qui va prendre son fils, voyez-vous, et qui va l'amener, amen, qui va l'amener pour le présenter en sacrifice. Et comme je l'ai dit hier, quand on parle de l'autel, il y a toujours trois notions fondamentales qui sont intimement liées à la notion d'autel. J'ai parlé hier de la triade, c'est-à-dire du groupement de trois réalités. Autour de l'autel, il y a trois réalités. Lorsqu'il y en a une qui manque, l'autel ne sert à rien. Les trois réalités sont, d'abord, le sacrificateur, c'est-à-dire celui qui offre. Dites-moi, à quoi sert d'avoir un autel sans qu'il y ait quelqu'un pour sacrifier? Ça a un sens? Ok. Et puis ensuite, la deuxième chose, non seulement il y a l'offrande, c'est-à-dire le sacrificateur, mais il y a le sacrifice, c'est-à-dire il y a l'offrande. Et dans le cadre de l'Holocauste, cette offrande est un animal, parce que ça doit être un sacrifice sanglant, c'est-à-dire que le sang coule. Et la troisième réalité, intimement liée à l'autel, c'est Dieu, c'est-à-dire celui à qui on... Voilà. Si les trois ne sont pas là, ben, s'il y a un autel, alors c'est un autel consacré à quelqu'un d'autre. Consacré aux démons, consacré au sexe, consacré au moi rebelle, à toutes sortes de choses. S'il y a que le sacrificateur et l'autel sans qu'il y ait le sacrifice, comment voulez-vous que Dieu descende? Hein? Mais non, s'il y a que le sacrifice sans sacrificateur, mais Dieu n'est pas intéressé, comme je vous ai dit, ou alors c'est un sacrifice qui n'a rien à voir avec Dieu. Et il y a dans certaines confréries occultes cette notion de sacrifice. Hein? On a vu, on a entendu des sectes diaboliques, sataniques, par exemple, faire des sacrifices humains. Eh oui. En Europe, j'ai déjà eu à suivre des histoires comme ça. Hein. On avait arrêté un groupe de satanistes qui avait tué un de leurs amis, qui l'avait sacrifié, qui l'avait offert à Lucifer. Ah oui, ils l'ont tué, ils l'ont égorgé, ils l'ont tué et puis ils l'ont offert à Lucifer. C'est des sectes sataniques. Des satanistes, il y a un peu partout. D'ailleurs, dans notre monde de plus en plus, qui s'égare de plus en plus, les gens n'hésitent plus. Hein. À l'époque, on pouvait, pour ne parler que le cas de la Belgique, on pouvait prendre l'annuaire qui reprenait tout le numéro de téléphone et trouver, moi-même j'avais regardé, par exemple, vous cherchez église des satanistes et vous aviez les références. Ils ne se cachent plus. Donc, Abraham, c'est aussi une illustration de cette nécessité de construire l'autel. Dieu lui demande de prendre son fils. Nous sommes dans Genèse 22, rapidement. Il lui demande de prendre son fils, pas n'importe lequel, celui qu'il aime. Et Dieu d'ajouter son unique. Alléluia. Quand Dieu lui demande Isaac, mais Abraham n'avait pas qu'un seul fils. Hein. Il y avait qui avant? Évidemment, c'était le produit d'une aventure avec la servante de son épouse, Agar. Donc, mais ici, Dieu est clair. Quand Dieu parle, il est clair dans ce qu'il dit. Dieu ne nous parle pas en Scrabble ou je ne sais pas quoi, dans des termes obscurs, pour un terme informatique ou dans des codes kabbalistiques, qu'il faille être familier avec ces choses pour discerner sa volonté. Non, Dieu parle de manière claire. Le Seigneur lui dit, donne-moi, prends ton fils. S'il lui avait dit, prends ton fils, allez me l'offrir, il se serait tourné vers qui? Ah oui. Il dit, non, celui-ci, c'est le fils de la promesse. Dieu m'a dit que c'est par lui qu'il va me susciter une postérité, mais si je le sacrifie, donc la postérité est finie. Il aurait été vite chercher Ismaël. Petit, où es-tu, fiston? Viens ici. Dieu ne s'est pas arrêté là. Ton fils, d'accord. Là, c'est vague. Hein? Ton unique, ah. Là, le choix devient encore très clair. Et il ajoute, celui que tu aimes. Oh là là. Celui que tu aimes. Là, le Seigneur a mis les doigts où il fallait. En lui demandant celui qu'il aimait, ce que Dieu lui demandait au juste, c'était son cœur et sa vie. Il a attendu cet enfant pendant des années et des années. Et quand cet enfant est né, pour lui, c'était de la consolation. C'était un réconfort. Enfin, Dieu a tenu sa promesse. Par cet enfant, eh bien, avec mon épouse, nous allons avoir une postérité qui pourra hériter de la terre que Dieu m'a promise. Voyez-vous? Mais voilà que le Seigneur le lui demande. Lui qui était l'objet de son affection. Lui qui était son héritier, mes amis. Il comptait sur lui. Et c'est seulement celui-là que le Seigneur lui demande. Qu'est-ce qu'Abraham allait faire? Qu'est-ce que toi et moi nous aurions fait à sa place, mes amis? C'était une équation difficile. Il fallait vraiment aimer Dieu pour consentir à obéir à cette injonction de la part du Seigneur. Dieu a mis Abraham devant un choix. Il fallait que Dieu éprouve Abraham, qu'il sache qu'Abraham l'aimait, qu'il ne le suivait pas parce qu'il lui avait promis un enfant, il le lui avait donné. Qu'il ne le suivait pas seulement parce qu'il avait fait partir de son pays pour lui donner un pays où coule le lait, le miel, etc. Dieu devait voir qu'Abraham aimait Dieu véritablement, qu'il ne le suivait pas par intérêt. Alléluia. Dans la prospérité, dans l'adversité, face à l'épreuve, dans la souffrance ou dans la maladie, il était important que Dieu voie qu'il y avait là un amour réel. Car le plus grand commandement est celui-là, tu aimeras ton Seigneur de tout, de tout, de tout. Voilà le premier commandement. Et l'amour est toujours le produit d'un choix rationnel. On choisit d'aimer. C'est pourquoi cette histoire de coup de foudre n'est pas véritablement de l'amour. Ce qui commence par un coup de foudre se termine aussi par la foudre. Oh, je ne dors plus. Alors ça, c'est un amour irrationnel. Parce que le vrai amour se décide en âme et conscience. Les sentiments peuvent être là, mais il faudra un jour choisir. C'est pourquoi, jeunes gens, jeunes filles, ne vous laissez pas conduire uniquement par les sentiments. Non, car les sentiments, on peut vous les manipuler. Il y a des jeunes gens qui sont de véritables spécialistes dans la manipulation des sentiments de jeunes filles. Des très bons parleurs, voilà. Il y a des sœurs qui ont déjà été victimes. C'est vrai, même les hommes. Les sentiments, on peut les manipuler. Un homme vient, votre collègue, il vous jette tout le temps, il vous compte tout le temps fleurette. À chaque fois, c'est tout. Ah, mais j'ai jamais vu une femme aussi belle que vous, hein. Longuta, il a dit ça un jour à sa femme. Ouais, ouais. Ah, j'aime ta façon de parler. Oui, mais tu crois que tu es la seule à parler de cette manière? Entre en toi-même. Mais comme La Fontaine nous l'a dit, eh bien, le flatteur vit aux dépens de... Elle dit, ah bon, tu as ma manière de parler? Ah, ça me fait plaisir, hein? Et puis, ça y est. Demain, ça sera autre chose. Ah, j'aime les chaussures, hein? Tu les as eues? Ah, moi, j'aime les fermés. Je ne sais pas comment vous appelez. Les fermés ou les ouverts. Les hauts talons ou les... Voilà. Et après, les chaussures, c'est autre chose. Et puis, toi, tu aimes. Et comme tu as un vrai... Quelqu'un qui vient, je ne sais, il y a certaines tribus où la femme ne compte pas, je ne vais pas les citer. Elle dit, attention, chez nous, la femme n'a rien à dire. Alors, jamais des propos gentils. Jamais des propos doux. C'est toujours, mais où es-tu? Frère, vous devez changer. Même au téléphone. Tin. Allô? Où es-tu? Ça fait la troisième fois que je t'appelle. Mais d'abord, bonjour. Avec nos réseaux ici, c'est pas étonnant, non? Voilà. Alors, quand vous tombez sur un collègue très attentionné, très prévenant. Oh là là. Chaque chemisier que tu mets fait l'objet de... Oh, oh là là. Alors, méfie-toi. Mets tout de suite... Ah oui. Plante ta haie tout de suite. Bah. Garde ça. Oui, très bien. Et s'il faut lui dire, tu sais que tes compliments me gênent. C'est tout? Tu me salues, c'est tout, mais ça me dérange que tu me dises ceci ou cela. Ça, c'est le domaine réservé à mon mari. Alléluia. Ou alors le contraire, il y a aussi des sœurs, attention. C'est aussi dans l'autre sens. Hein. Elle dit, ah, moi j'aime les hommes avec la calvitie. Ah bon? Alors là, tu la touches un peu. Elle dit, mais pourtant, ma femme n'aime pas. Ma femme a même conseillé d'acheter une postiche. Ah bon? Et puis voilà, l'homme, maintenant désormais, dès qu'il arrive en présence de la collègue, ah oui, parce que l'autre, donc vous voyez, nous devons faire attention. Alléluia. Donc, celui que tu aimes, c'était Abraham de faire le choix. Qu'allait-il faire? Mais Abraham était décidé. Il aimait Dieu. S'il aurait pu écouter seulement les sentiments, croyez-moi, il n'aurait jamais été jusqu'à Morija. Parce que les sentiments étaient en direction de son fils. Oui ou non? Comme les sentiments de tous parents, mes amis. Mais voilà, il y avait le fils, il y avait Dieu. Et entre les deux, c'était lui. Qui allait-il mettre sur l'autel? Le fils, mes amis, n'a été qu'un moyen. En prenant son fils, en le mettant, Isaac, sur l'autel qu'il avait dressé à Moria ou Morija, c'est sa propre vie qu'il mettait sur l'autel. En levant le couteau, les larmes dans le cœur, en fait, il levait le couteau pour se tuer lui-même. Mais avant que le couteau tombe sur l'enfant, une voix parlait. Alléluia! Une voix a parlé. Dieu a dit à Abraham, je vois maintenant que tu m'aimes, car tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Alléluia. Et au même moment, Abraham lève les yeux. Il voit derrière un petit buisson, un bélier qui était retenu. Alléluia. Un bélier. Dieu avait pourvu avant même qu'Abraham, mes amis, lève le couteau. En fait, je voudrais vous présenter ça sous forme d'une image. Représentez-vous un peu cette montagne de Morija. Pendant qu'Abraham, avec son fils, en route vers le sommet, marchait pour aller dresser l'autel, Dieu faisait monter le bélier. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Plus il faisait un pas, plus il permettait à Dieu de faire aussi un pas. Deux pas. Lui aussi, Dieu faisait deux pas. Il est arrivé, quand il a dressé l'autel, eh bien, il n'avait pas à écouter un chant qui disait, « Yahvé, j'irai. » Non! Ça a été une expérience. Quand il se retourne, le bélier était là. Mes amis, l'obéissance amène Dieu vers nous. Il ne pouvait pas voir. Il partait dans les larmes. C'était difficile. C'était sa croix. Alors que les gens pouvaient se moquer, alors que les travailleurs qui étaient avec lui pouvaient dire, mais ce vieillard est fou, comment il part avec son fils, avec un couteau, il n'y a pas d'animal, donc probablement qu'il va tuer son fils, c'est un malade. Pendant que le vieillard lui pleurait, pendant que le vieillard n'avait Dieu que pour son bien, disant, Seigneur, qu'est-ce que tu me fais? Mais je n'ai pas d'autre choix que de t'obéir. Cet enfant, c'est toi qui me l'as donné. Et le Nouveau Testament ajoutera plus tard, parce qu'Abraham croyait que Dieu avait le pouvoir de ressusciter son fils. Monte, Dieu monte. Si tu ne vis pas la révélation de Dieu comme étant Yahvé irai, Yahvé j'irai, celui qui voit et pourvoit, c'est que ce n'est pas de sa faute. Tu dois monter. Plus tu montes, lui aussi monte. Alléluia. Plus tu obéis, eh bien lui monte. Alors même si tu ne vois pas aujourd'hui quoi que ce soit, même s'il n'y a rien au ciel, même si c'est simplement une petite poussière, mon frère, ma soeur, continue. Un pas, il en fait un. Tu t'arrêtes, il t'arrête. Dieu est fidèle. C'est notre fidélité qui l'amène vers nous. C'est notre intégrité, notre résolution, ferme résolution à lui obéir, qui l'amène vers nous, jusqu'à ce que nous puissions. Alors là, nous ouvrons les yeux, nous recevons cette révélation, comme quoi le Dieu de la Bible, le Seigneur des Seigneurs, est véritablement celui qui voit les besoins de son peuple et qui, à la montagne de l'Éternel, il sera, mais arrive jusqu'au sommet de la montagne. Escalade la montagne jusque dans ses hauteurs. Et quand tu arrives là-bas, dresse l'autel. Mais il faut qu'il y ait le sacrifice. Et dans notre cas, ce sacrifice, c'est toi, mon frère. C'est toi qui dois mourir à toi-même. L'autel, c'est en toi. L'autel, c'est la croix que le Seigneur te demande de prendre. Lorsque Jésus a dit que celui qui veut me suivre prenne sa croix et marche derrière moi, eh bien, il nous montrait que si nous voulons vivre pleinement toute la puissance du royaume de Dieu, si nous voulons voir ce Dieu agir envers nous comme celui qui voit nos besoins et qui pourvoit nos besoins, nous n'avons pas d'autre choix que de dresser l'autel, que de restaurer l'autel et de ne pas mettre notre famille sur l'autel, de ne pas mettre notre épouse sur l'autel, de ne pas mettre qui que ce soit sur l'autel. Ce que Dieu nous demande, ce n'est pas de sacrifier nos enfants, ce n'est pas de sacrifier notre famille. Ce que Dieu nous demande, c'est nous-mêmes. C'est à nous de monter sur l'autel. Voyez-vous, il y en a qui essaient de sacrifier leur famille. Non, nos enfants ont besoin de nous. Hein. De jeunes de 40 jours, on abandonne les enfants, on revient, ça ne remplacera jamais la présence de parents à leur côté. On laisse son mari, c'est toujours de jeûne, tout le mois. Oh, nous sommes allés à Kimpes, ou je ne sais pas où. Ouais. Et le mari reste seul. Ouais. On est parti. Là, tu sacrifies ta famille. Hein. Quelque part, tu dis, c'est pour le Seigneur. Non, il ne t'a pas. C'est celui qui a dit que tu aimeras ton mari. Oui ou non? Tu peux le faire de temps à autre, mais ça ne doit pas devenir une règle. Ouais. Tu fuis la maison. Mais ce n'est pas en fouillant que tu résoudras le problème. Hein? Et quelquefois, oui, mais Makelele, tout ça, oui, mais arrange le Makelele. Ça... Voilà. Donc, voyez-vous, Dieu ne nous demande pas de sacrifier nos familles, hein? Ni nos époux, surtout nous qui sommes dans le ministère. Nous devons faire très attention. Vous voyez? Nous devons penser à nos enfants, hein? De temps à autre. Être avec les enfants, mes amis, est un devoir. Il ne faut pas en faire simplement pour remplir la terre. Oh, Dieu a dit, multipliez-vous. Mais vous n'êtes pas des lapins. Les lapins, ils font, voilà, c'est des lapins. Les animaux, mais nous sommes des êtres humains. Nous devons réfléchir. Si nous en faisons, nous devons être en mesure d'en prendre soin. C'est là. Avec l'autel, le sacrifice que Dieu se révèle à Abraham comme étant Adonai Yireh. Yahvé Jireh, si vous voulez. Ouais, parce que le J n'existe pas en hébreu. Hein. Yahvé. Vous aurez remarqué que je ne dis pas Jéhovah. Il ne faut plus utiliser ça. Je vais préparer. On est en train de. Le genre de la. Il y a une émission sur notre radio qui m'attend, où je vais parler du vocable Jéhovah. Certains me regardent avec des yeux et disent, mais qu'est-ce que le pasteur raconte là? On voit ça dans la Bible, non? Mais ce ne sont que des traductions. Ce terme a atterri dans nos Bibles au Moyen-Âge. C'est tout. Voyez? Et depuis, certaines versions ont repris le terme Jéhovah, que ce soit chez les anglophones ou chez nous, les francophones. D'ailleurs, vous verrez que toutes les versions aujourd'hui francophones ne reprennent plus Jéhovah. Pourquoi? Parce que d'abord, il faut connaître les subtilités, les particularismes de l'hébreu. Il faut savoir que depuis la captivité, après le retour de Juifs, la prononciation de ces quatre lettres-là, qu'on appelle le tétragramme, Y, H, W, H, la prononciation s'est perdue. Ça, nous devons le savoir. Voilà, ça c'est la première explication. Après le retour, il n'y avait plus de souverain sacrificateur. Parce que c'est le souverain sacrificateur seul, quand il entrait là, dans le Saint des Saints, le jour du Yom Kippour, qui prononçait ce nom-là. Quand il sortait, le peuple se contentait simplement de le prononcer, mais personne ne le laissait, mes amis. Vous voyez? On reprenait simplement. Ça, ces quatre lettres sont les lettres du verbe être, aussi bien en araméen qu'en hébreu. C'est le verbe être. Quand Dieu a dit à Moïse, je suis qui? C'est un verbe, ce n'est pas un nom. Hein? C'est nous qui avons fait un nom. Alors au Moyen-Âge, pour ceux qui ont fait l'hébreu, quand on lit la Bible hébraïque, qu'on arrive là où il y a le nom de Dieu, il y a ces quatre lettres-là. Alors les Juifs, quand ils arrivent là, ils prononcent Adonai, qui veut dire Seigneur. Voilà. Alors pour permettre au lecteur de lire que là c'est Adonai, ils mettent dans la marge les voyelles qu'on trouve dans Adonai. Et dans Adonai, qu'est-ce qu'il y a comme voyelles? A, O et A-I. Autrement, le I là, c'est un Y. En hébreu, c'est pas une voyelle. Donc, normalement, ça devrait être Yahweh. Donc, il vous montre que ils mettent les voyelles de Adonai dans le mot. Non pas pour que vous lisiez Yahweh. Non. Il vous montre simplement, ce sont les Massorètes, il dit, en cet endroit-là, tu dois lire Adonai. C'est tout. Mais alors, au Moyen-Âge, on a pris le mot avec ses voyelles, Yehovah. Mais vous allez me dire, mais pourquoi Yé alors que c'est A? N'est-ce pas? Ça aurait pu être Yahweh. Mais là, il y a un problème. Les Juifs, en hébreu, Yahweh, ça veut dire calamité. C'est un terme négatif. Et Yah, c'est la forme courte de Dieu. Alors imaginez-vous quelqu'un qui devait lire Yahweh. Donc Yah, Dieu et la calamité. C'est comme ça qu'ils n'ont pas repris le A. Ils ont laissé le E. D'où Yé ou Jéhovah. Mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas mis pour que nous prononcions Jéhovah. Voyez? Personne ne sait jusqu'aujourd'hui. Voyez? Personne ne sait. Moi, j'ai eu affaire à des grands professeurs d'araméen, d'hébreu et tout ça. Personne ne sait. Il y a des conjectures. Vous voyez? L'hypothèse qui se rapproche le plus, c'est Yahvé ou Yahweh, puisque le W se prononce V en hébreu, Yahweh ou alors Yahou. Parce qu'on retrouve, ça n'a rien à voir avec Yahou, hein, point fr. Vous voyez, je vous ai eu. Donc, ça n'a rien à voir avec ça. Donc, vous voyez, utilisez Yahweh, ou alors dites Adonai, c'est tout. Alors, là où Adonai, puisque on trouve deux fois le quatre lettres qu'on lit Adonai, précédé d'Adonai, dans ce qu'on traduit quoi? Eh bien, les mêmes savants juifs, quand les deux noms sont là, eh bien, ils prennent le voyelle de Elohim. Cette fois-ci, au lieu d'avoir ça, ils mettent Elohim. Or, si les gens qui ont traduit Jéhovah, en cet endroit, ils devraient dire Yéhoïm. Non, Yéhim, voilà. Yéhim, parce qu'il y a un I. Pourquoi on ne le fait pas? Donc c'est ça. C'est-à-dire, en cet endroit, on va dire Adonai Elohim. C'est-à-dire, ce qui est écrit est une chose, mais ce qu'on lit, c'en est. C'est un principe en hébreu. On appelle ça le kere ketiv. Ketiv comme le kitab, pour ceux qui parlent swahili. Ketib, kib. Eh bien, ce qui est écrit, c'est autre chose, mais ce que tu lis, c'est parce que tu ne peux pas prononcer le nom de Dieu. Donc voilà. Je referme la parenthèse. Vous comprenez pourquoi je parle tout le temps d'Adonai Yahvé. D'Adonai Jireh. Parce que c'est ça qu'il y a, c'est pas Jéhovah. Alors, Tout ça, c'est venu beaucoup plus tard avec des siècles. Il y a eu des chants, il y a eu Ovaïe, enfin bref. Mais ce qui est extraordinaire pour vous, c'est que ce nom-là, le quatre lettres, on ne le retrouve pas dans le Nouveau Testament. Parce que nous ne sommes pas sauvés par une formule. Alléluia. Amen. Jésus est la manifestation de Dieu. Quand il nous apprend à prier, il ne dit pas, voilà comment vous devez prier. Adonai. Ou quoi? Il dit quoi? Père. Notre Père. C'est une révélation, mes amis. Maintenant, nous l'appelons Yahvé. Il n'y a pas de problème, c'est Seigneur. Vous pouvez l'appeler Seigneur, vous pouvez l'appeler l'Adonai. Ce n'est pas parce que vous l'avez prononcé que vous êtes sauvé. Vous voyez? C'est plus une expérience qu'un nom. C'est pourquoi je disais invoquer le nom de Dieu, eh bien, implique une expérience en amont. Alors, j'invoque le nom du Seigneur parce que je suis avec lui. Hein? Alors, on va trouver des gens et dire, ah, tu es comme ça, hey, il faut invoquer le Dieu. Hein? Mais il va l'invoquer comment? Dieu, c'est de la magie. Ce n'est pas un mantra. Vous connaissez le mantra, c'est parler démoniaque dans le bouddhisme, là. Hein? On récite des prières, ce sont des... Enfin, c'est un terme technique, oubliez cela. Non, Dieu ne peut leur dire. Non. Bref, là, sur le mont Morija, Abraham a dressé quoi? L'autel. Et là, il a mis le sacrifice lui-même. Et le bélier est venu après. Et résultat, Dieu lui a parlé. Alléluia. Dieu lui a parlé, mes amis. Ça a été un acte d'obéissance. C'était la mort à lui-même. C'était, mes amis, le don. Il a donné à Dieu ce qu'il avait de plus que lui, sa propre vie. Alléluia. Résultat, le Seigneur se révèle comme étant Adonai Yireh. Donc, et puis il va lui faire, dans ce contexte de, comment, d'autel dressé, dans ce contexte de manifestation de Dieu, le Seigneur lui dit, parce que tu as fait cela. Qu'est-ce qu'il a fait? Je vous pose la question. Il a dressé quoi? Et qu'est-ce qu'il a mis sur l'autel? Parce que tu as fait cela, parce que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique, bref, toi-même, tu as accepté de te mettre sur l'autel, au verset 17 de ce même chapitre, il dit, je te comblerai de bénédictions, je multiplierai ta descendance aura le contrôle de ses ennemis, alléluia, parce que tu as écouté ma voix, et écouté dans le contexte hébraïque, ce n'est pas tendre l'oreille. Tu dis quoi? Mais je n'entends pas bien. Non, c'est écouter dans le sens oyoyo kakate. Ça veut dire quoi? Tu n'obéis pas. Il a vu, mais Dieu ne voit pas pour voir. C'est ça, il faut connaître un peu les subtilités de la langue. Quand je préparais le message, il y a une image de ma jeunesse qui m'est revenue. Mon beau-père, le mari de ma mère, était donc ouvrier au chemin de fer à l'époque. Donc, bon, il ne gagnait pas grand-chose, nous étions nombreux à la maison. Et pour essayer un peu d'aider mon beau-père, ma mère faisait un petit commerce, des petits beignets et tout ça. Et donc, ça lui rapportait un peu d'argent. Et quand j'avais besoin de quelque chose, j'allais vers elle, je lui disais, maman, je lui disais littéralement en swahili, unyangali, regarde-moi. Maintenant, ça voulait dire quoi? Mais il me regardait toujours, non? Oui ou non? Vois-moi. Hein? Donc, ça veut dire quoi? Va au-delà de ce que tu me vois, dans mon besoin. Alors, elle savait. Elle venait avec les makuta, là. Hein? Makuta ou likuta. Il me donnait un peu, donc j'avais un petit rien pour acheter un bonbon, parce que moi, à l'école... Il y avait toujours des gens qui vendaient des petits beignets, enfin des bonbons, enfin bref, ouais, regarde-moi, vois-moi. Et ma mère me voyait. Résultat, j'avais quelque chose dans la poche de mon petit short. Donc vous voyez, c'est la même chose. Et l'Éternel, il est iré, il verra. Ce n'est pas simplement voir, ah c'est Abraham, ah non. Se voir dans le sens de rencontrer le besoin. Amen. Même en lingala, au talinga kakaboye. Oui ou non? Tu me regardes seulement comme ça. Un Européen ne comprendrait pas. Tu me regardes seulement comme ça, ça veut dire quoi? Regardez. Mais alors on regarde comment? Vous voyez, il faut se replacer dans le contexte pour comprendre. Ah, otalinga kagaboye. Ça veut dire tu me regardes et tu ne regardes pas là où je suis véritablement. Ça veut dire j'ai besoin d'un GSM. Otalinga kagaboye. Voilà. Donc vous voyez, c'est exactement la même chose. Adonai qui voit et qui pourvoit. Alléluia. D'ailleurs, il y a une version ancienne, je vais m'arrêter là, qui a traduit cela par « Sur la montagne, Adonai pourvoira » ou alors « Adonai apparaîtra ». Et quand il apparaît, nos besoins sont rencontrés. Mes amis, une fois de plus, l'autel est indispensable dans notre relation avec le Seigneur. Que ce soit au Mont Carmel, apprenons à dresser l'autel. Que ce soit au Mont Morija, eh bien, apprenons à dresser l'autel. Et à placer le sacrifice, c'est-à-dire nous-mêmes. Si nous agissons de cette manière, si notre vie reste constamment sur l'autel, mes amis, le feu continuera à brûler comme l'image que vous avez vue là. Alléluia. Et quand le feu brûle, mes amis, le péché n'a plus de place en nous. Alléluia. Quand le feu brûle en nous, toutes ces pensées négatives, ces pensées charnelles sont détruites. Quand le feu brûle en nous, nos sentiments sont épurés. Alléluia. Quand le feu brûle, mes amis, notre intelligence est rendue vive. Et nous avons le discernement du Seigneur. Alléluia. Quand le feu brûle, nous devenons de véritables dangers pour l'enfer. Toutes ces mouches des ténèbres, tous ces moustiques des enfers ne peuvent pas nous approcher. Vous voyez? On n'aura même pas. Ils vont danser là. Nous nous louons simplement. Et par malheur, s'il manque de sagesse, il tombe sur nous. C'est quoi? Fini. Comme je vous avais dit là, la dame. Oh non, je suis tourmenté par les démons et tout ça. L'évangéliste lui dit, mais tu as une plaque, une cuisinière électrique. Quand vous préparez les mamans, qu'est-ce qui arrive? Il y a toujours un peu de sauce qui tombe, etc. Le reste, hein, ça attire quoi? Ça éloigne ou ça attire les mouches? Et puis les mouches viennent même sur la plaque. Si vous voulez passer tout votre temps à les chasser, vous vous fatiguerez. Mettez le feu. Alléluia! Mettez le feu! La mouche qui osera va y laisser sa vie. C'est le feu de Dieu qui rend nos vies incandescentes. C'est le feu de Dieu qui éclaire, qui brûle. Et quand nous sommes quelque part, tous ceux qui ne partagent pas nos convictions sont mal à l'aise. Ils sont irradiés. Ils sont en contact avec la chaleur d'en haut. Et quelquefois, ils même partent. Ils changent de visage, ils vous dévisagent. Ils vous regardent de pied en cap et ils partent. Ah, cet homme, je ne le supporte pas. Ah. C'est pas celui qui est en lui là. A senti la chaleur. La fournaise. Les heures de prière ici que tu passes. Le moment de prière chez toi à la maison. Quand tu entres dans l'atelier de Dieu. Lors de tes moments de communion avec lui. Là le feu brûle tout le temps. Mon frère, ma sœur, restaure l'autel. Oh que la borne de notre église puisse avoir en son sein un grand autel qui brûle constamment. Oh Dieu, qu'il nous fasse grâce de mourir à nous-mêmes, de mourir à nos ambitions égoïstes, de mourir à notre orgueil, à notre arrogance spirituelle. Que le Seigneur nous donne de mourir à tous nos projets. Que le Seigneur nous donne de mourir à tout. Alors nous vivrons pour lui. Et nous verrons qu'avec Dieu tout est possible. Car lorsque nous mourrons, eh bien là, nous lui laissons toute la place. Nous nous mettons là derrière. Voyez-vous? Et là derrière, ben nous n'avons plus de chemin. C'est d'ailleurs le sens du verbe qui a été traduit en français par acolyte dans le culte catholique. L'acolyte est celui qui suit qui? Eh bien, dans l'étymologie de ce mot, il y a le a privatif, acolouteo, qui veut dire c'est celui qui n'a pas de chemin. Effectivement, l'acolyte n'a pas de chemin. Le seul chemin devant lui, c'est qui? Gloire à Dieu. Alléluia. Jésus a dit, prenez la croix et suivez-moi. Quand nous mettons derrière, nous n'avons plus d'autre chemin. C'est lui que nous suivons. C'est le capitaine par excellence. Celui qui maîtrise tous les GPS du monde. Il sait où il nous amène. Nous n'avons pas à tourner de regard. Même lorsque nous entendons quelques bruits, là c'est l'orage qui se présente. Qu'est-ce qu'on va faire? Mais lui, il est là. Quand on entend certains séismes, oh là là, Seigneur, mais non, je suis là tranquille. Moi, je le suis. Je n'ai pas de chemin. Celui, le chemin. Alléluia. Je n'ai pas de route. C'est pourquoi quelquefois, quand on demande, mais quelle est la vision que tu as pour ta vie? Je dis, mais je n'ai pas de vision. Enfin, ce n'est pas sur toi tu en as. Moi, je n'ai pas de vision. Moi, je suis le Seigneur. S'il tourne à droite, je tourne. S'il tourne à droite, à gauche, je tourne à gauche. Je peux avoir une vision globale dans le sens où il faut travailler, nous organisons, etc. Mais quant à dire, bon, ma vision, c'est ceci. À moins que vous, avec le Saint-Esprit, c'est comme des copains. Vous retrouvez chaque soir comme autour d'un bureau, vous parlez, dites, demain, ok. Non, sinon, nous le suivons. C'est notre GPS. Vous savez, quand vous avez le GPS, vous ne regardez nulle part. Hein? Tournez à gauche, vous tournez. Allez tout droit, vous allez. Arrêtez-vous, vous arrêtez. Et ainsi de suite. Et c'est ça avec Dieu. Et pour qu'on arrive à ça, il faut que l'autel soit... Acclamons le Seigneur. Gloire à Dieu. S'il vous plaît, je vois qu'il y a des gens qui partent. J'aimerais que nous terminions de grâce, s'il vous plaît. Nous allons prier. Vous allez avoir votre transport. Faites confiance au Seigneur. Oui, ce n'est pas le 5 minutes ici qui va vous en empêcher. Je voudrais que nous terminions avant de permettre aux gens de pouvoir partir. Notre Père et notre Dieu, nous voulons te remercier pour ta parole. Seigneur, ta parole a été bonne pour nous. Tu nous as fait du bien. Seigneur, tu nous as entourés par devant, par derrière. Aide-nous à redresser l'autel, à bâtir l'autel au milieu de nous, Seigneur. Car c'est alors que nous verrons ton feu descendre, nous embraser et embraser notre environnement. Merci de bénir cet enseignement et de nous aider, Seigneur, à le mettre en pratique.